Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, mais aussi Margot Leridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Et c'est Christophe Ayad qui rentre à l'instant dans le studio. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. On va parler ce matin du Liban. La mobilisation se poursuit au Liban malgré les annonces de réforme du gouvernement du Premier ministre Saad Hariri. Avec plus d'un million de personnes qui sont descendues dans la rue, soit le quart de la population totale, toute confession, tous milieux sociaux confondus, l'étincelle était partie de l'annonce d'une nouvelle taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp. Mais les revendications se sont considérablement élargies. Avec des manifestants qui dénoncent la corruption de leurs élites, de leurs élus, pointent leur incurie, réclament la chute du régime et aspirent à la déconfessionnalisation du paysage politique libanais, rien que ça. Quelles sont les racines de cette colère libanaise? Comment les difficultés du quotidien ont-elles entraîné cette exaspération et quelles pourraient en être les conséquences politiques? Le pays du cèdre peut-il en finir avec le confessionnalisme? Et d'ailleurs, à quoi ressemble ce système politique libanais? Pour évoquer ces questions, nous avons invité Xavier Baron, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes journaliste, vous avez vécu longtemps au Liban, vous avez d'ailleurs écrit une histoire de Liban qui était paru chez Talendier. À vos côtés, Ziad Majed, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue, professeur à l'Université américaine de Paris. Vous aviez co-écrit notamment Dans la tête de Bachar al-Assad. Vous êtes un spécialiste dans le centre de la région, mais vous connaissez particulièrement le Liban pour y avoir vécu également. Vous êtes franco-libanais.
Tout à fait.
Avant d'évoquer toutes ces questions, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Syrie.
Tous les prisonniers avaient peur de lui, même celui qui venait à peine d'arriver et qui n'avait pas encore été torturé. Il avait peur juste en entendant le nom d'Abu Sofyan. Tout le monde avait entendu parler de lui. Il était toujours masqué et nerveux. Il avait une multitude de façons de nous torturer. Il choisissait la méthode par rapport au corps et au poids du détenu. Il n'avait aucune pitié, ni envers les plus âgés, ni envers les plus faibles.
Bonjour Kamal Redouani.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste. On vous reçoit pour ce documentaire dont on vient d'entendre à l'instant un extrait. Djihadiste français, La part du monstre, qui est produit par Kappa et qui sera diffusé mardi 29 octobre, mardi prochain à 20h50. Alors, on compte aujourd'hui quelques chiffres entre 2500 et 3000 djihadistes étrangers en Syrie, retenus dans des prisons kurdes essentiellement. Parmi eux, 370 Français, Françaises, dont 250 enfants. Ça, c'est le décompte, le dernier décompte du mois de juillet. Et grâce donc aux coordonnées GPS récupérées sur des téléphones portables de djihadistes, vous êtes retourné sur les ruines du califat pour comprendre ce qu'a été le rôle de ces djihadistes occidentaux. Un travail qui est évidemment indispensable pour comprendre ce qui s'est passé au nom, bien sûr, de la vérité et de l'histoire, mais aussi pour établir des responsabilités pour peut-être des gens qui, demain, peut-être, devront passer devant la justice. Avant d'évoquer le contenu même de votre documentaire, Kamal Radouani, il y a évidemment, j'ai eu un sentiment quand j'ai vu votre documentaire relatif à cette question qu'on évoque depuis des mois, à savoir faut-il ou non rapatrier ces gens, les premiers considérant que compte tenu des méfaits qu'ils ont commis, ils n'ont rien à faire en France et que donc il ne faut pas les rapatrier. Les seconds considérant que au nom du droit, de la justice, des droits de l'homme, eh bien oui, il faut les faire rentrer en France. Alors le gouvernement a choisi de se ranger derrière les premiers. Quand on voit ce qu'il se passe en ce moment en Syrie avec cette offensive turque qui a totalement rebattu les cartes, avec ces Kurdes qui sont obligés de se replier, avec des combattants djihadistes qui intentionnellement ou non, sont libérés, pour certains en tout cas. Il y a quelques chiffres qui sont sortis du côté de l'administration américaine. Il semble que même si ça reste pour l'instant assez peu, on parle d'une centaine pour l'instant de personnes qui auraient échappé aux prisons kurdes, on se dit que ces questions qu'on se posait sont peut-être à relire au vu de l'actualité. C'est-à-dire que peut-être que par pur pragmatisme, il eût fallu les faire rentrer et éviter de laisser leur gestion à des tiers.
C'est clair. Moi, depuis le début, depuis très longtemps, je disais qu'il fallait rapatrier ces djihadistes, tout simplement parce qu'il fallait les avoir sous la main, parce qu'il fallait les juger ici, dans un état de droit, plutôt que de déléguer la justice à d'autres pays. Enfin, c'est assez incroyable de laisser une autre justice faire le travail que devraient faire nos magistrats. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas confiance en nos juges, nos avocats, etc., notre système judiciaire. Et puis, en plus de ça, c'est de laisser des djihadistes qui peuvent finalement sortir de prison, qui peuvent fuir, qui peuvent, il y a de la corruption, qui peuvent payer leur sortie. C'est assez incroyable de laisser la main à d'autres pays.
Et là, toutes les conditions sont réunies précisément pour qu'il se passe justement ce qu'on craignait justement.
Et puis maintenant,
au-delà des questions éthiques, morales, juridiques. Justement, Jean-Yves Le Drian était la semaine dernière à Bagdad pour essayer de voir comment on pouvait peut-être organiser le transfert de certains de ces djihadistes du côté de Bagdad. Alors officiellement, les autorités irakiennes disent qu'il n'est absolument pas question qu'on transfère qui que ce soit. Ça, c'est officiellement...
C'est bien sûr, c'est le discours officiel, mais en même temps, il était là-bas pour discuter sur le transfert des djihadistes de Syrie vers l'Irak. Il était là-bas pour négocier à ce que les djihadistes qui sont en Syrie aujourd'hui puissent être jugés là-bas. Et puis, il faut savoir qu'il y a quelques mois, déjà, il y a eu un transfert de 11 ou 13 djihadistes français qui sont aujourd'hui dans les prisons irakiennes, qui ont été jugés, parfois condamnés à mort en Irak. Donc, ce transfert, il a existé, il existe, et puis dans tous les cas, c'est un transfert qui va se monnayer, grosso modo, c'est-à-dire les Irakiens vont demander de l'argent à la France pour s'occuper de nos djihadistes.
Votre documentaire, Kamal Radouani, s'ouvre sur la ville de Raqqa, l'ancien fief de l'État islamique en Syrie. 1700 Français auraient vécu ici. Vous suivez les traces de votre contact à la lampe torche dans le couloir obscur d'un immeuble. Vous tombez sur les affiches de l'État islamique, sur ce qui semble être un studio d'enregistrement. Et très probablement, le site où Fabien Klein aurait fait cet enregistrement après les attentats du Bataclan.
Exactement, la revendication de l'État islamique après l'attentat du Bataclan. C'est la radio albaïenne. En fait, je suis tombé sur les studios de la radio albaïenne à Raqqa. Et bien sûr, pas par hasard, parce que j'avais un point GPS, mais ce point GPS m'emmenait en face de trois bâtiments, trois immeubles qui sont bombardés, qui sont un petit peu en ruine. J'ai frappé à toutes les portes, je suis rentré un peu partout. Puis après, au final, je suis tombé dans les sous-sols, dans cette radio, où il y avait encore des affiches, des journaux, des CD, et puis surtout les studios. Voilà, comme le nôtre, mais en plus petit. Et c'est forcément, c'est peut-être sûrement là-bas, enfin, je dirais que Fabien Klein a enregistré les revendications. C'est une simple découverte, ça n'a rien d'extraordinaire finalement, mais le lieu, rien que le fait d'y être, on se dit waouh, il y a eu des morts à Paris, et c'est là où un Français a déclaré à la France, au fait, a déclaré sa haine à la France, a déclaré son envie d'en découdre avec nous, avec notre démocratie, avec notre liberté. Donc moi, ça me donnait des frissons quand j'y étais, j'avoue.
Sans compter qu'on peut rencontrer des gens qui ont cohabité avec ces personnes-là. Vous avez rencontré des Syriens qui vivaient, j'allais dire, en voisins. Quels souvenirs est-ce qu'ils ont justement de ces combattants?
Ben, ils les ont croisés, ils les ont vus, on les entend d'ailleurs dans le sujet, dans le documentaire. Ils étaient occupés, voilà. Et c'était les occupants, c'est eux qui portaient des armes, qui étaient en force, qui étaient là. Alors les jeunes du quartier, de ce quartier, là où il y a la radio d'ailleurs, albaïenne, c'est le quartier Sakana, c'est un quartier finalement où les occidentaux, les djihadistes occidentaux, ils ont habité là-bas en majorité. Et donc les gens de ce quartier-là, c'était assez incroyable parce que à la fois ils voyaient ces djihadistes blancs, chinois, japonais, français, européens, italiens passés, parlant leur langue, une langue étrangère qu'ils comprenaient pas. En même temps, ils flippaient parce qu'ils avaient peur de ces gens-là. Et en même temps, ils devaient suivre les règles qu'instauraient des gens qui sont venus de l'extérieur, frères d'un autre pays dans leur quartier qui leur expliquaient comment vivre. Donc, quand on est voisin, il y a un garçon qui m'a dit, j'étais voisin d'un Italien qui était à l'étage au-dessus de moi. Ben, je ne pouvais pas fumer une clope chez moi parce que l'Italien, s'il sentait la cigarette, il allait descendre et j'allais être jugé, j'allais être fouetté, etc. Donc,
d'ailleurs, ce jeune garçon vous raconte comment ces djihadistes occidentaux dépensaient crânement leur argent devant les Syriens qui, eux, n'avaient absolument aucun moyen, se payaient des frigidaires, des écrans plats, des climatiseurs, etc., etc., avec toutes les petites combines qu'on peut imaginer, imposant leurs lois précisément sur les personnes qui habitaient dans cette cité syrienne, en l'occurrence. Au fond, ils ont, d'une certaine manière, un peu reproduit ce qu'était leur système d'avant.
Exactement. Bah, ils ont reproduit la vie de quartier. En fait, quelques-uns. Enfin, j'ai l'impression que moi j'étais étonné de découvrir ça. C'est-à-dire, ils ont reproduit dans les quartiers en Syrie et notamment à Tabqa, dans une ville qui est une ville au bord de l'Euphrate, donc un petit peu balnéaire, très agréable à vivre en Syrie, où elle a été très peu bombardée pendant 3 ans. Donc ils ont reproduit un petit peu la vie de quartier avec des petites magouilles, avec ils s'échangeaient des cartes de l'État islamique, des cartes pour ne pas aller au travail, par exemple. Ils essayaient de toucher le salaire sans aller combattre, ou des choses comme ça, des petites magouilles. Mais en même temps, ils vendaient de l'électricité avec des générateurs à la population. Donc, ils imposaient à la population, en fait, ils spoliaient les maisons, ils volaient la population, et ils montraient qu'ils étaient les plus riches, les plus forts, etc., aux gens, aux locaux. Donc, vous imaginez, quand vous êtes Syrien et que vous regardez des étrangers qui sont là et qui vous imposent tout, non seulement ils vous imposent la manière dont vous devez mener votre vie dans votre pays, mais en même temps ils vous imposent ne pas, ils vous enlèvent toute liberté d'action, et c'est assez incroyable. C'est
Kamal Redouani, pardon, on va regarder comment est-ce qu'ils sont arrivés en Syrie, puis ensuite comment ils en sont partis, hein, parce que vous avez refait la route de la déroute, si je puis dire, depuis Raqqa jusqu'à Barouz, pas loin de la frontière irakienne. Mais d'abord, pour rentrer, on sait que beaucoup sont passés par la Turquie. Vous rencontrez notamment un passeur qui en a fait passer un certain nombre. Il reconnaît d'ailleurs les photos que vous lui présentez. Il vous explique que tout cela était extrêmement professionnalisé. Vous passez même dans un souterrain qui mène d'un village turc à un village syrien. Enfin, tout était extrêmement bien organisé. On a régulièrement eu un certain nombre de soupçons sur l'hypothèse selon laquelle peut-être la Turquie aurait été un peu laxiste vis-à-vis justement de ces passages. Qu'en est-il? Qu'est-ce que vous avez senti, vous? Est-ce que effectivement les témoignages que vous avez recueillis vous ont laissé penser que oui, eh bien les autorités turques laissaient faire?
Les autorités turques laissaient faire, parce que moi, personnellement, je suis passé par la frontière turque plusieurs fois d'une manière clandestine, et j'ai vu de mes propres yeux l'armée turque détourner le regard, regarder ailleurs. En fait, il y avait des projecteurs qui donnaient sur cette frontière, sur ces barbelés, et ces projecteurs-là, peu importe, l'armée ne regardait pas ce qui se passait à sa frontière. Donc, ils laissaient passer des journalistes, et donc aussi des djihadistes. Donc, il n'y a aucun doute qu'à un moment donné, la Turquie a laissé passer, enfin maintenant on le sait, et puis il n'y a plus rien à prouver, à laisser passer des milliers de personnes vers la Syrie.
Et c'est encore le cas aujourd'hui? On passe assez facilement.
C'est plus le cas aujourd'hui, pour être honnête, c'est plus le cas. D'abord, ils ont construit un mur, et à un moment donné, ils ont décidé que cette frontière allait être fermée complètement. Elle n'est pas fermée pour tout le monde, il faut le savoir. Elle est fermée, en tout cas, pour les journalistes. Elle est fermée pour les djihadistes aussi, qui veulent fuir, qui veulent sortir. Ils ont décidé de fermer cette frontière, mais ils ont laissé quand même quelques poches, quelques portes, quelques souterrains qui permettent, par exemple, à une armée, l'armée libre syrienne ou celle qui est proche au fait de l'armée turque, de pouvoir sortir et de pouvoir se positionner sur un autre territoire. Ça, c'est avant la guerre. Aujourd'hui, l'entrée en guerre en Turquie. Donc, la Turquie a été toujours jouer un double jeu par rapport à cette frontière.
Kamal Redouani, il y a une autre question que je voudrais évoquer avec vous, c'est celle des femmes. C'est une grosse partie de votre documentaire que d'essayer de comprendre finalement quelle est la responsabilité de ces femmes qui ont participé directement, indirectement ou pas du tout au djihad. Il y a un certain nombre de témoignages. On a aussi bien celui d'une sage-femme qui donc a été vraiment au contact d'un certain nombre d'entre elles qui disent oui, elles étaient armées jusqu'aux dents. Certaines ont même participé à la police islamique, mais en revanche, on a aussi des témoignages d'autres femmes, comme par exemple cette jeune Syrienne qu'on a forcée à marier avec un djihadiste français. Finalement, comment faire la part des choses, Kamal Ridouani? Est-ce qu'elles sont victimes, complices? Comment faire la part des choses et comment est-ce qu'on va s'en sortir avec cette question des femmes de djihadistes?
La question des femmes, moi j'ai laissé aux téléspectateurs de juger par eux-mêmes. C'est-à-dire, à la fois, j'ai donné la parole aux femmes djihadistes, que moi j'appelle djihadistes tout court, les femmes, qui, elles, expliquent qu'elles se sont fait avoir, qu'elles sont parties par amour ou elles sont parties pour aider les Syriens, etc. Un petit peu le discours qu'on entend aujourd'hui de tous les djihadistes qui sont en Syrie. Mais en même temps, j'ai donné la parole à ceux qui les ont côtoyés. Vous avez parlé de la sage-femme. Effectivement, une sage-femme, vous imaginez, c'est le témoin direct de l'intimité des djihadistes. C'est l'une des rares à être entrée chez les djihadistes européens, parce qu'elle a fait naître une trentaine d'enfants de toute nationalité. D'ailleurs, elle le dit avec un sourire, c'est-à-dire elle a connu des Italiens, des Espagnols, des Thaïlandais. C'est une sage-femme de Raqqa qui a connu tout. Et donc, dans l'intimité, quand on rentre chez quelqu'un, quand on voit comment il vit à l'intérieur, quand elle témoigne et elle dit, ces femmes, elles portaient des armes, ces femmes avaient un discours, avaient une idéologie à défendre, étaient des djihadistes tout court. Donc, à nous, on a les deux discours.
Sans compter qu'elle vous explique aussi qu'elles œuvraient énormément pour évidemment conditionner les enfants, les petits, exactement, qui plus tard devraient prendre la relève.
Exactement. Et puis, moi, si vous me demandez mon avis personnel, moi, je n'appelle pas ces femmes, les femmes de djihadistes, je les appelle djihadistes tout court, parce que c'est une erreur de dire, c'est-à-dire, quand une femme, par exemple, est rentrée en Syrie, ok, elle est peut-être rentrée par amour, elle avait peut-être 17 ans au moment de rentrer, mineure, etc. Mais quand une femme a passé des années au sein de l'État islamique, et qu'elle a continué jusqu'à Barou, c'est-à-dire elle a fui, et tout ce parcours que je montre dans le film, ce parcours qui énorme, 2 ans de fuite de l'État islamique jusqu'à Barouz.
J'entends ce que vous dites, mais vous dites aussi, Kamal Ridouani, et vous montrez très bien dans votre documentaire, que c'était extrêmement difficile, voire impossible d'en sortir. Vous racontez qu'il y avait au sein de Daesh cette unité qu'on appelait l'unité d'or, qui était chargée en gros de mettre en place un système de surveillance où tout le monde se surveille les uns les autres. Comment échapper une fois rentré dans la mécanique daeshienne? Comment en sortir? Très compliqué.
C'est très compliqué, effectivement. C'est très compliqué pour ces jeunes femmes de sortir, mais
pour les hommes aussi d'ailleurs.
Mais pour, vous savez, en zone de guerre, il y a toujours une manière de quitter un territoire. Ça, c'est quelque chose pour tous les gens qui ont couvert les terrains de guerre. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen de pouvoir se déplacer, de pouvoir sortir. Et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de djihadistes qui sont sortis bien avant la chute de Raqqa ou pendant la guerre à Raqqa, qui sont pas restés 2 ans supplémentaires jusqu'à Barouz. Donc, on le voit aussi dans le documentaire. Il y en a qui ont réussi à fuir tout court et ne pas se faire attraper par les Kurdes ni par les renseignements européens et qui vivent librement en Syrie.
Le témoignage de ce Belge Hamza qui vous raconte face caméra que lui, il a fait le djihad mais qu'il a jamais tué personne, qu'il a pas combattu, etc. C'est pas possible ça, très concrètement, quand on rentre dans les rangs de Daesh, il est pas envisageable une seconde de ne pas combattre.
C'est ce que j'ai essayé de c'est ce qu'on entend dans les tribunaux en France. Moi, j'ai assisté ici en France à un jugement d'un groupe de djihadistes qui sont revenus de Syrie. Sur le banc des témoins, des accusateurs, il y avait personne. Il n'y avait pas les Syriens, il n'y avait pas les Irakiens. Par contre, il n'y avait que la parole des djihadistes qui disaient le même discours que Hamza, c'est-à-dire « je n'ai pas porté d'armes, je n'ai pas combattu, j'étais au sein de l'État islamique, ils sont partis pour ouvrir un commerce ». C'est assez incroyable. Mais Ce discours-là n'est pas tenable. Enfin, il finit lui-même. C'est-à-dire, quand je lui pose des questions, que je lui dis, mais vous avez quand même une arme sur vous? Mais oui, tout le monde avait une arme. C'est ce qu'il répond. Donc, mais quand on a une Kalachnikov à la main et quand on se balade avec une arme, qu'est-ce qu'on fait sur, dans un terrain ou dans un terrain de guerre, quand il y a des combats? On la garde dans son placard, enfin, je sais pas, mais en tout cas, quand on appartient à l'État islamique, quand on est salarié de l'État islamique, c'est le cas, on est salarié parce qu'on est combattant et on va combattre parce que c'est la règle et c'est la règle pour tout le monde.
Bon, on n'a pas eu le temps, Kamal Ridouani, de refaire le parcours, la route de la déroute avec vous de Raqqa à Barouz en passant par Deir-ez-Zor, mais bon, les auditeurs pourront regardez ce documentaire qui est vraiment extrêmement bien fait, hein, je le dis, Kamal Ridouani, et qui permet justement à chacun de se faire son opinion. Je vais faire réagir les gens qui sont avec nous ici en plateau. Ziad Majed, Xavier Baron, Christophe Ayad, avant d'évoquer avec vous le Liban, Ziad Majed, j'ai vu que vous aviez écouté avec beaucoup d'intérêt, évidemment. Peut-être une petite réaction avant de passer
oui,
au Liban.
Deux réactions. La première, c'est que j'entendais les amis syriens de Raqqa, notamment, qui comparaient les djihadistes et leurs familles à des colons. Ils sentaient à la fois être sous une occupation militaire et sous des colons. La métaphore palestinienne, donc, est assez forte à ce niveau-là. La deuxième, là où peut-être on peut avoir quelques divergences, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont parties par illusion, par mythe, par considération que là-bas, la société musulmane utopique va être vécue et construite. Et puis finalement, la désillusion était terrible, mais avec des enfants et durant un contexte de guerre et sous les bombardements de l'aviation américaine et les canons des milices kurdes, c'était extrêmement difficile pour elles de changer de vie. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de les rapatrier tous, de les juger ici, parce que les laisser dans la nature là-bas, autre que par rapport au droit international, droit humain, le fait qu'ils sont dans Al-Houl, 80 000 personnes, avec tout le monde dans des conditions terribles, je pense que ce n'est pas du tout la bonne stratégie, ni éthique, ni juridique, ni politique.
Xavier Baron.
Oui, à Raqqa, donc, les djihadistes se sont imposés contre la volonté des habitants qui devaient les supporter. Mais j'avais cru comprendre qu'au début de la guerre, au moment où les djihadistes sont apparus pendant la guerre en Syrie, ils avaient été plutôt bien accueillis. Et les premiers groupes djihadistes faisaient en sorte que dans la population, ils étaient bien supportés. Donc il y a eu une évolution, il y a eu une dérive, il y a eu les excès des djihadistes qui ont fait qu'ils sont devenus insupportables pour la population.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. La population, à majorité sunnite à Raqqa par exemple, ou à partir de Raqqa vers le sud, a ouvert les portes aux djihadistes, bien sûr, au début, a applaudi l'arrivée des djihadistes, mais effectivement, leur manière de faire, leur barbarie finalement sur place, a fait que la population rapidement a compris qu'elle a fait une erreur, mais en tout cas une partie de la population, parce qu'il y en a qui ont rejoint Daesh, qui ont rejoint les colons, comme vous dites, mais voilà, mais effectivement.
Christophe Ayad.
Moi, je voulais revenir un petit peu sur la situation présente, c'est-à-dire le fait que la France a effectivement confié à un non-État, c'est-à-dire la milice kurde des forces démocratiques syriennes qui elles-mêmes cachaient les YPG et qui elles-mêmes cachaient une forme de PKK syro-turc qui était chargé de garder des centaines, enfin plutôt des milliers de djihadistes. Et je suis surpris que aujourd'hui en Europe, il n'y ait pas un peu plus de débat sur le fait d'avoir traité avec un non-État pour confier des ressortissants, sachant que ce non-État disait lui-même qu'il n'avait pas les moyens d'une justice. Donc on se retrouve aujourd'hui avec la catastrophe annoncée, c'est-à-dire des djihadistes qui sont peut-être dans la nature, gardés par des Turcs ou leurs supplétifs, qui sont eux-mêmes, pour certains, islamistes, voire djihadistes. Quant à la situation irakienne, elle n'est pas bien plus brillante. C'est que l'Irak a changé aussi. Depuis 6 mois, il y a eu des troubles, il y a des luttes de factions, et il y a l'Iran, qui est extrêmement influent en Irak. Confier des djihadistes à un pays dont un certain nombre de ministres sont sous influence de l'Iran, c'est les confier aussi à d'une certaine manière l'Iran, sachant qu'on a des choses à négocier avec l'Iran en ce moment et que c'est un peu compliqué.
C'est d'ailleurs un sujet qu'on a évoqué cette semaine dans une série consacrée à l'interventionnisme, à l'intervention de l'intervention, au désengagement, la double peine. Je vous invite à réécouter justement cette série. Il était évidemment aussi question de l'Irak. Merci beaucoup en tout cas Kamal Redouani. Je rappelle, djihadiste français, La Part du Monstre, ça sera sur France 5 mardi prochain, 20h50.
Exact.
Merci beaucoup. Voilà, on va quitter la Syrie, prendre la direction du Liban. Liban vers la fin du confessionnalisme, c'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Depuis près de 10 jours maintenant, le Liban est en ébullition avec un mouvement de contestation peut-être sans précédent dans l'histoire du pays. Des manifestants qui se rassemblent, toutes confessions confondues, toutes classes sociales confondues autour de la dénonciation du système actuel et leur aspiration au changement.
Tout le monde doit voir que le pays est mort. C'est ce que nous disons. Nous avons décidé d'ouvrir les rues, nous, le peuple. Et maintenant, nous voulons bloquer les rues jusqu'à ce que nous ayons ce que nous voulons. Nous commençons à collaborer et à être constructifs, enfin.
Ce gouvernement n'a travaillé qu'à nous diviser entre les confessions, les régions et les partis. Ils n'ont fait que nous appauvrir.
Nous avons l'espoir car les gens ont surmonté le sectarisme dans lequel ils se trouvaient. Les gens ont faim, c'est devenu cher de manger. Le carburant est impayable et les gens ne s'en sortent plus. Alors, ils n'ont d'autre choix que d'être dans la rue.
Alors, on va essayer de comprendre les racines de ce mouvement, voir comment il pourra évoluer. Est-ce qu'un changement est possible? Est-ce que cette déconfessionnalisation est possible du côté du Liban? Et puis, comment les puissances étrangères aussi influent sur cette question libanaise? Ziad Majed et Xavier Baron sont nos invités. Merci encore d'être avec nous. Christophe Ayad, notre partenaire du Monde. C'est vrai qu'on a vu ces dernières années, je vais commencer avec vous, Ziad Majed, on a vu ces dernières années un certain nombre de mouvements sociaux, de contestations. On se souvient, par exemple, il y a quelques années de cette crise des ordures, avec, vous vous souvenez, ce collectif qui appelait à la démission du gouvernement parce qu'il était incapable de gérer cette question des ordures. Là, on a l'impression que c'est autre chose, c'est-à-dire qu'on a un mouvement qui est beaucoup plus profond, qui va au-delà des clivages confessionnels. On a vraiment l'impression de vivre quelque chose d'inédit. Vous confirmez ?
Oui, absolument. Ce qui se passe aujourd'hui est très différent de 2015, quand il y a eu la grande campagne « Vous puez ». Qui s'adressait à la classe politique libanaise incapable de gérer la crise des ordures. Et c'est bien différent aussi de ce qui s'est passé en 2005, quand il y a eu la très grande mobilisation suite à l'assassinat du premier ministre Hariri, où les Libanais étaient divisés entre pro-régime syrien, anti-régime syrien, avec des lignes confessionnelles également. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment la fin des clivages de 2005, 14 mars, 8 mars, les deux camps qui ont monopolisé la vie politique libanaise, et le fait que le mouvement est très décentralisé fait que dans chaque région, dans chaque ville, les gens, d'un côté, manifestent contre toute la classe politique, mais manifestent également contre leurs propres représentants au sein de la même communauté religieuse. Ce qui fait que les clivages confessionnels qu'on connaît souvent dans le pays ne sont plus là, temporairement, disons. Les questions régionales, qui est pro-iranien, pro-saoudien, les rôles des acteurs régionaux, le régime syrien, la question est dépassée également. Elle n'est pas au cœur, pour le moment, au cœur des mobilisations. Donc il y a quelque chose de nouveau et les gens manifestent clairement également contre le confessionnalisme politique, donc contre la philosophie du système libanais.
Xavier Baron, votre vision, votre perception de ce mouvement-là, vous avez vécu vous une douzaine d'années au Liban, vous avez écrit une histoire du Liban qui était parue chez Talendier, effectivement il y a quelque chose d'inédit là-dedans?
Alors, j'espère qu'il y a quelque chose d'inédit. Mais effectivement, il y a déjà eu des mouvements où on retrouvait un peu tous les Libanais ces dernières années. Ce qui est très difficile au Liban, c'est de pouvoir changer quelque chose sur le plan politique. Et là, les manifestants demandent que faire table rase, en quelque sorte, de tout le système politique. Mais on n'a pas la recette, si vous voulez, quelquefois. Et ça, c'est un peu ce qui est inquiétant, parce que des mouvements au Liban, il y en a un en 2007-2008 qui a duré 2 ans. Pendant 2 ans, des manifestants ont campé devant le sérail. Donc, pour changer quoi? Pour faire quoi? Et là, Alors, le système libanais est extrêmement compliqué. Et je dois dire que, de mon point de vue, les accords qui ont été passés à Taif en 1989 n'ont fait que compliquer et que rendre ingouvernable le Liban. Alors, parce qu'il n'y a plus de responsables, tout le monde est là, donc il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de contradictions. Et alors, si on touche à quelqu'un, on touche à tout le monde, donc personne ne veut qu'on touche au système.
On va revenir, évidemment, sur ces accords de Taif, dont on vient d'ailleurs de commémorer les 30 ans. C'était le 22 octobre 89. Donc, on vient de fêter là les 30 ans. On y reviendra parce que c'est évidemment important pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour comprendre le système politique et confessionnel libanais. Christophe Ayad.
Est-ce que, parce que moi la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que les Libanais qui manifestent et assez justement, enfin ils mettent le doigt sur ce qui ne va pas dans leur économie, dans leur système politique et institutionnel, est-ce qu'ils manifestent un peu contre eux-mêmes? Parce que moi je veux bien que tous les Libanais soient aujourd'hui contre le confessionnalisme, mais le confessionnalisme, c'est aussi la garantie d'un emploi. Alors certes, mal payé, mais c'est, je veux dire, il y a des quotas, on le sait, à Middle East Airlines, on embauche tant de chiites, tant de sunnites, enfin, tant de clients du Hezbollah, de Hamal, des forces libanaises, etc. Et est-ce que le confessionnalisme, c'est pas aussi la garantie d'une représentation? C'est-à-dire que si un jour, un homme, une femme, égale une voix au Liban, bah, la majorité, il se peut... que vous ne soyez pas représenté si vous êtes issu d'une petite communauté ou d'une communauté dont les représentants politiques se sont révélés très mauvais dans les urnes.
Il faut dire peut-être, Christophe, pour compléter ce que tu dis, c'est que il y a une démographie là qui va plutôt dans le sens des chiites, c'est-à-dire qu'il y a proportionnellement de plus en plus de chiites démographiquement du côté du Liban. Ziad Majed, sur cette question, finalement, il manifeste aussi contre eux-mêmes.
Alors, je pense qu'il y a peut-être trois profils au moins de manifestants. Il y a des profils de gens qui sont une très grande partie de la rue aujourd'hui, qui ont moins de 21 ans, donc ils n'ont jamais voté. Et qui, parce qu'au Liban, la loi électorale stipule que c'est à partir de 21 ans qu'on a le droit de voter et non pas 18 ans. Donc cette catégorie de gens entre 15 aujourd'hui et 21 ans est très importante. Et elle
sans compter que les plus anciens ont voté en 2018, mais avant 2018, c'était 9 ans avant, c'était 2009 les élections d'avant.
Donc ils se soulèvent contre tout et ils considèrent qu'ils sont responsables en rien de la situation actuelle. Puis il y a une autre catégorie qui a probablement voté pour certains politiques aujourd'hui au pouvoir, mais qui est extrêmement déçue pour des raisons économiques, pour le fait que le clientélisme libanais auquel faisait référence Christophe Ayad ne fonctionne plus de la même manière, puisqu'il y a moins de revenus et l'État n'arrive plus à distribuer de la même forme la rente et la gestion de l'argent à travers les réseaux de clientélisme qui pouvaient trouver de temps à autre des jobs à des gens. Et puis il y a les personnes qui appartiennent au troisième profil qui se soulèvent et qui sont toujours soulevées contre le système lui-même, contre cette idée du confessionnalisme qui, je suis d'accord, est compliquée et que Taif a rendu encore plus complexe, mais qui peut également être démystifié. C'est vrai que le confessionnalisme, pendant quelques temps, a rendu possible, vu le rapport de force entre les communautés, une certaine liberté politique relative, parce que tout le monde ne pouvait pas franchir certaines lignes rouges. Mais depuis quelques années, on n'est plus dans cette configuration. D'un côté, Hezbollah est assez pesant et assez puissant par rapport aux autres acteurs, donc il impose ses choix stratégiques. Hariri a été fragilisé et n'arrive plus à gérer, en plus de tous les scandales de corruption autour de lui qui sont restés impunis. Et le président de la République, Michel Aoun, non seulement il est dans un autre monde, on a vu son mot hier, le montage était catastrophique.
Oui, il a expliqué parole, qu'il comprenait les manifestants, mais qu'il fallait aussi comprendre que la liberté de manifester c'est important, mais la liberté de circuler c'est important aussi, donc s'il vous plaît dégagez
les gens sont en train
de
le comparer aujourd'hui à Bouteflika, et en plus c'est son gendre qui concentre la plus grande colère et la plus grande haine des manifestants, c'est sa dynastie dans ce sens-là. Donc toute la classe politique, Berre et autres, sont aujourd'hui visé par ce qui se passe dans la rue.
Xavier Baron, vous évoquiez tout à l'heure la difficulté à sortir de cette crise. Il y a, quand on regarde cette semaine, effectivement, un certain nombre d'hypothèses qui ont été présentées dans la presse libanaise. Alors, on a évoqué la possibilité d'un remaniement gouvernemental, ça permettrait de d'évacuer les ministres les plus critiqués, les plus conspués. Il y a l'hypothèse de la mise en place d'un comité de pilotage de technocrates pour organiser un peu la transition. Il y a l'hypothèse évidemment d'élections anticipées. Est-ce que l'une de ces hypothèses, ou plusieurs d'ailleurs, peuvent permettre de sortir de la crise, Xavier Baron?
Alors, les hypothèses sont limitées dans le contexte politique et dans le contexte constitutionnel actuel. Mais effectivement, le changement du gouvernement, la démission du gouvernement paraît impossible. Parce qu'il faudrait qu'Hariri démissionne, ou il faudrait que, je crois que le tiers des ministres quittent le gouvernement.
Les deux tiers, pardon.
Les deux tiers. Oui. Donc actuellement, on voit pas comment ça pourrait être possible.
Certains ont déjà quitté, hein.
Oui, mais 4 sur 30. Oui. Donc, ça laisse encore. C'est un début. Alors, il faudrait qu'il y en ait 11 autres qui quittent le gouvernement.
Peu probable.
Dans le cas actuel, c'est peu probable. Donc la démission, le changement du gouvernement, non. Par contre, un remaniement ministériel, en faisant partir les têtes les plus critiquées dans la rue, il faudrait qu'il y en ait encore une dizaine de... Avant l'effondrement du gouvernement, on peut aller jusqu'à 15. Donc il faudrait qu'il y en ait une dizaine d'autres que l'on fasse partir. Il faudrait qu'il y ait un accord entre le président de la République et le chef du gouvernement pour, en quelque sorte, récuser ses ministres. Ça paraît l'hypothèse la plus possible. Est-ce que ce sera celle qui sera retenue? J'en sais rien. Mais il y a d'autres personnes qui sont... Il y a Nabih Berri. Nabih Berri, qui depuis Taïf est élu pour le président du Parlement, élu pour la durée de la mandature, et il n'a pas du tout l'intention de partir. Or, il est là depuis 1992, je crois. C'est un peu contre tout ça que c'est pas seulement...
Michel Aoun était bien Premier ministre il y a 30 ans, au moment des accords de Taïf.
Oui, mais il est président de la République depuis 2016.
Oui, bah justement, donc, c'est 30 ans qu'il est là, au moins.
Oui, je sais, mais pas dans ses fonctions.
Oui, j'entends.
Pas dans ses fonctions. Ouais. Donc c'est un jeu de cartes très très difficile à manier. Ouais. Mais
Xavier Baron, vous disiez Rafik Hariri ne peut pas partir. Pourquoi?
Saad Hariri.
Saad Hariri ne veut pas.
Rafik, c'était le PA.
Oui. Parce qu'il ne veut pas.
Parce qu'il ne veut pas, ou parce qu'il est indispensable pour récupérer de l'argent auprès des bailleurs de fonds internationaux.
Alors, il y a aussi sa personne, qui est aussi bien pour les sunnites, parce qu'il n'y a pas d'autre leader sunnite, aussi bien pour les bailleurs internationaux, puisque c'est à lui qu'on a fait confiance, et puis parce qu'il a jamais été question. D'ailleurs, son plan de réforme qu'il a présenté il y a 2-3 jours et qui est assez bien sûr incomplet, superficiel, n'a pas été très très bien accueilli. Mais
c'est un euphémisme. Ça a été carrément mal accueilli. Ouais.
Mais Aoun hier lui a dit que il le soutenait.
Ziad Majed.
Non, en fait, Hariri est prisonnier de plusieurs formules. À la fois, il n'a plus la couverture saoudienne comme avant, vu ses relations extrêmement tendues avec le prince héritier, Mohammed bin Salman. Il est nécessaire pour Hezbollah et Aoun, parce que la communauté internationale le considère le seul interlocuteur et impose des sanctions, par ailleurs, contre Hezbollah. Et il est, pour lui-même, pour sa survie politique, il ne peut plus démissionner maintenant parce qu'il n'a plus le soutien saoudien qui le garde en vie à l'extérieur de l'État. Donc ni il peut démissionner pour des raisons propres à sa carrière et à son leadership sunnite, ni par rapport à Hezbollah qui ne veut pas qu'il démissionne parce que c'est le seul interlocuteur. Et pour Aoun également, c'est une garantie qu'il peut avoir un sunnite entre guillemets fort avec lui. Or, que ce soit le discours de Aoun qui était extrêmement banal ou les promesses de Hariri, cela n'a pas du tout calmé la rue qui veut beaucoup plus. Est-ce qu'il y a une alternative politique élaborée claire? Non, comme dans toutes les révolutions, comme dans toutes les contestations, ça fait 10 jours que les gens sont dans la rue, ça va être très difficile, c'est vrai, les deux conditions constitutionnelles pour la démission ne sont pas là, c'est-à-dire Hariri qui quitte ou les deux tiers qui sortent. Donc il y a une crise qui va durer encore.
Mais justement, qu'est-ce qui peut se passer compte tenu de ce que vous racontez, du blocage actuel? Parce que évidemment le scénario du pire, c'est celui où là on a vu l'armée qui commençait à se déployer. Alors pour le moment, effectivement, c'est un mouvement pacifique, donc tout se passe bien. Et effectivement, les forces de l'ordre ne bougent pas trop, il se passe rien. Mais enfin bon, si les manifestants n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, le mouvement risque de se radicaliser. Si de son côté, le régime ne veut rien faire, ne peut rien faire, il risque d'avoir une riposte un peu plus ferme. Ça pourrait mal se passer, là.
Le scénario le plus probable que certains évoquent aujourd'hui, c'est que Hezbollah, qui est le seul du côté du régime capable encore de mobiliser dans la rue des masses, peut commencer à organiser des contre-manifestations. Des clashs peuvent avoir lieu de temps à autre, comme il y a eu hier soir à la place Riyad Salah à Beyrouth, ce qui pousserait le gouvernement à demander à l'armée d'interdire toutes les manifestations, donc d'essayer de contenir la colère et de montrer qu'il y a, suite à cela, un remaniement gouvernemental, des réformes rapides, quelques meilleure gestion de la crise et
Les
de la
gens
corruption.
Vont rentrer chez eux.
Moi, je suis pas sûr. Ouais. Je pense que c'est un pari très risqué de la part du gouvernement si jamais il prend cette option. Sinon, il reste le remaniement gouvernemental et des mesures esthétiques un peu qui changeront pas grand chose.
Xavier Baron et puis Christophe Le recours à l'armée, ce sera une première. Parce que traditionnellement, l'armée au Liban ne veut pas être impliquée dans les affaires politiques. On l'a bien vu depuis 48 heures où il y a l'armée dans les rues. Elle n'ouvre pas les routes comme on lui demande. Je crois que le général Aoun, le commandant en chef de l'armée, a dit, c'est pas à nous régler les problèmes politiques. Et c'est un peu une constante, sauf pendant la guerre chaude, la guerre civile 75-77, mais l'armée déjà du temps de Chehab, c'était on n'intervient pas dans les affaires politiques. Et faire entrer l'armée dans faire intervenir l'armée dans la rue contre les manifestants, je vois pas ça aujourd'hui.
Christophe Ayad.
Alors moi, il y a un autre aspect de cette crise que je voudrais évoquer et qui est, à mon avis, encore plus inquiétant, c'est l'état économique du pays. Parce qu'il y a une crise, pareil, conjoncturelle, immédiate. Il faut des rentrées fiscales pour pouvoir rassurer les bailleurs de fonds sur la capacité du Liban à rembourser les 11 milliards de dollars qui s'apprêtent à toucher. Or, pour l'instant, elles sont largement insuffisantes.
Ça compte qu'il y a une dette absolument colossale, 151% du PIB.
Et il y a un problème structurel qui est, là aussi, les Libanais vont être un petit peu obligés de penser contre eux-mêmes, mais on peut pas vivre dans une économie où les banques servent des taux d'intérêt de 8 à 10%, dans une économie qui n'a pas de croissance et ne produit pas grand-chose. Or, la plupart des Libanais vivent de leur bas de laine qui donne lieu à des intérêts beaucoup trop surévalués. Or, moi je pense que la racine de cette crise, c'est le doute qui a commencé à germer sur la stabilité du système bancaire. En fait, le vrai président du Liban, c'est Riyad Salamé. C'est le président de la Banque centrale. C'est l'homme qui a réussi depuis 1990 quasiment de manière presque ininterrompue à sauver à chaque fois la situation financière du Liban. Là, on sent qu'il arrive au bout puisque il est en train d'empêcher les retraits dollars.
Il n'y a plus de marge de manœuvre.
Voilà. Donc, est-ce que là aussi, il n'y a pas un risque d'implosion du système, d'un système qui est fondé sur quelque chose d'assez phénoménal, qui est un pays où on vous donne 8 à 10% d'intérêt, ce qui est énorme, sans croissance, sachant que ailleurs dans le monde occidental, aujourd'hui les taux d'intérêt ils sont à zéro, quoi. Ouais. À peu près.
Ziad Majad.
Deux choses rapides. Alors, juste pour l'armée, je suis d'accord que l'armée ne souhaite pas être en face des manifestants, mais l'idée de ne pas permettre des clashs dans la rue entre différents manifestants peut être adopté pour justifier un couvre-feu, pour interdire les manifestations, et non pas pour envoyer l'armée se heurter aux gens. D'autant plus que depuis de longues années maintenant, tous les candidats à la présidence de la République sont chefs de l'armée. Aoun lui-même, avant lui Sleiman était chef de l'armée, avant eux Emil Ahoud. Et à chaque fois qu'il y a un chef de l'armée, il est un des candidats. Il y a pas mal de paramètres par rapport à cette question-là. Maintenant, pour l'économie, je suis tout à fait d'accord avec Christophe Ayad. La question aujourd'hui, elle est alarmante et d'ailleurs, la valeur réelle de la livre libanaise a chuté face au dollar et il y a eu les interdictions de retrait. La grande partie de la dette gouvernementale est interne, ce sont les banques qui financent la dette, après avoir fait énormément d'intérêts dans le passé. Et aujourd'hui, une des mesures peut-être la seule qui est sérieuse du gouvernement, c'est de demander et d'exiger aux banques de contribuer et de payer pour aider un peu l'économie à se relancer. Donc les banques ont intérêt aujourd'hui à ce que le système ne s'écroule pas, parce que elles ont accumulé beaucoup d'argent, et la relation entre les banquiers et les politiques, elle est assez importante au Liban. C'est pour ça que certains les qualifient d'une oligarchie politico-économique. Riyad Salami a joué le rôle de l'équilibriste pendant très longtemps, mais il n'arrive plus aujourd'hui, vu le fait que le pays ne produit pas suffisamment et n'est pas en croissance. Les aides internationales sont très conditionnées. Les retraits ont eu lieu pendant quelques temps. La guerre en Syrie a eu son impact, non pas à travers les réfugiés, évidemment qu'il y a une question à soulever, mais aussi parce que le commerce du Liban passait par la Syrie pour aller dans le Golfe. Tout ça a changé. Donc beaucoup de pression aujourd'hui, et la question financière pèse sur la vie quotidienne des gens qui n'arrivent plus à retirer comme ils le veulent. La diaspora libanaise diminue un peu l'impact de cette question en envoyant de l'argent, mais même cela devient de plus en plus compliqué aujourd'hui.
Allez, place avec à notre partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de caricaturistes du monde entier. Le vendredi, on choisit un dessin en fonction de notre actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les gens, mon vieux.
Ah si.
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian.
Alors le dessin dont vous allez nous parler aujourd'hui revient sur la fois où Saad Hariri a failli démissionner.
Oui, aujourd'hui le peuple libanais réclame le départ de la classe politique et donc du Premier ministre. Il y a presque 2 ans, le gouvernement de Saad Hariri a déjà failli être renversé. Cette fois-là, ce n'était pas sous la pression de la rue, mais sous la pression des puissances étrangères. Cette histoire remonte à fin 2017. Le 4 novembre de cette année-là, Saad Hariri annonce à la surprise générale sa démission depuis Riyad, où il se trouve. Le Premier ministre dénonce alors la mainmise de l'Iran sur le Liban et accuse le Hezbollah d'être le bras de la République islamique. Mais cette décision inattendue et son séjour prolongé en Arabie Saoudite donnent lieu à un flot de spéculations. Pour le président libanais Michel Aoun, il n'y a aucun doute, son premier ministre est retenu en otage. Sur ce dessin, Saad Hariri est coincé entre 2 blocs de pierre. D'un côté, un rocher coiffé d'une traditionnelle goutra représente l'Arabie Saoudite, et de l'autre, 2 rocs, coiffés chacun d'une calotte en feutre, incarnent le Hezbollah et l'Iran. Ces 2 rocs ne font qu'un, leur unité illustre le lien historique entre la République islamique et l'organisation qui fait partie du gouvernement libanais, comme le veut le système de partage de pouvoir entre les communauté. Cette caricature a été croquée par le dessinateur de presse français installé à Bangkok, Steph. Elle a été publiée dans l'hebdomadaire américain The Nation le 16 novembre 2017. Intitulée Between a Rock and a Hard Place, entre le marteau et l'enclume en français, ce dessin est une belle illustration des luttes d'influence qui se jouent dans cette région. Car c'est bien de cela dont il est question. L'Arabie Saoudite sunnite aurait voulu se servir de Saad Hariri pour contrer le Hezbollah et donc endiguer l'influence de l'Iran chiite au Liban. Dans cette affaire, le pays du cèdre est le terrain de jeu d'un bras de fer entre Riyad et Téhéran. L'épilogue de ce feuilleton, c'est que Saad Hariri finit par retourner au Liban après un passage à Paris qui ressemble à une exfiltration et renonce à sa démission. Après avoir évité le séisme politique, le gouvernement libanais affiche son unité. C'est finalement peut-être une crise nationale qui aura raison de lui.
Merci beaucoup Hélène François. On va évidemment diffuser ce dessin sur les réseaux sociaux, sur le fil Twitter de Culture Monde. Réaction peut-être de nos invités. Ziad Majed, c'est vrai que cet événement, il avait montré des choses intéressantes sur l'influence évidemment de Riyad et Téhéran, mais peut-être plus d'ailleurs sur la perte d'influence un peu de Riyad vis-à-vis de Téhéran justement.
Oui, certainement, mais ça appartient beaucoup plus à ce qui s'est passé en 2017 qu'aux contestations aujourd'hui. Mohamed Ben Salman avait tenté ce coup-là en 2017. Le président français avait sauvé Hariri. D'ailleurs, depuis, il a été extrêmement fragilisé, même dans la formule interne libanaise. Mais aujourd'hui, les manifestants ne sont pas du tout concernés par l'Arabie et l'Iran.
Est-ce que cet événement-là, il n'a pas participé justement à forger une forme de d'unité nationale justement à l'époque, toute confession confondue, on avait quand même été assez humiliés par la convocation du Premier ministre libanais à Riyad. Est-ce que d'une certaine manière, justement cette unité qu'on voit au-delà des confessions, elle n'est pas aussi à chercher dans cet événement-là?
Oui, mais c'était assez éphémère. Ouais. D'une part, ouais. et d'autre part, il y a effectivement ce phénomène que puisque tout le monde est au sein du gouvernement, tout le monde a intérêt à jouer l'unité. Et personne n'a intérêt à critiquer le voisin. On parlait des questions financières et tout. Là, on a vu ces derniers jours, dans les manifestations, le Hezbollah et Hamal se faire critiquer, y compris dans
la
région.
Hamal qui est un parti chiite, hein, qui est allié au Hezbollah.
Les deux partis chiites et le parti Hezbollah tout-puissant, que ce soit dans la Bekaa ou dans le sud Liban, y compris un abattier, ils se font énormément critiquer. Qu'est-ce qu'a dit le Hezbollah? Il a dit qu'il ne faut pas toucher au gouvernement, en tous les cas, il ne faut pas le renverser. Le Hezbollah a intérêt, en dépit de la poigne et de sa prééminence, en quelque sorte, il a intérêt à ce que le système continue. D'autant plus qu'il souffre beaucoup des sanctions financières américaines actuellement et qu'il a intérêt à conserver.
Alors,
tout son acquis.
Le système, justement, vous pouvez nous le décrire un peu? Vous avez évoqué tout à l'heure les accords de Taïef du 22 octobre 1989, il y a 30 ans maintenant, parce que c'est eux qui avaient posé, justement, la structure telle qu'elle existe aujourd'hui. Vous nous expliquez un peu comment
ce que
ça prévoyait
aux injonctions syriennes. Et il me semble que les accords de Taïef n'ont pas été adoptés pour résoudre les problèmes libanais, mais pour faire en sorte que la classe politique libanaise soit impotente, n'ait pas les moyens de dégager des majorités, donc une ligne d'action, et que quand il y a des problèmes, à qui on s'adresse? À la Syrie. La Syrie, avec les accords de Taïef, la Syrie...
La bienveillante Syrie.
Devenait l'arbitre de tous les désaccords libanais. La Syrie n'est plus là aujourd'hui. Et donc vous avez un président de la République qui n'a plus de pouvoir, pratiquement. En tous les cas, le pouvoir exécutif est passé au Conseil des ministres. C'est-à-dire à une collectivité où tout le monde se retrouve, où tout le monde a intérêt à ce que tout le monde s'entende. Et la vie politique ne peut plus avancer.
Mais alors, Xavier Baron, est-ce qu'il n'y a pas un autre problème qui est le fait que Taïef ne prévoyait pas de justice traditionnelle? C'est-à-dire qu'en fait, vous retrouvez aujourd'hui à la tête du pays et des différents partis et communautés, soit les gens qui ont mené la guerre, soit leurs enfants.
Ah oui, c'est les chefs de milice sont arrivés au pouvoir, il n'y en a qu'un qui a payé, c'est Samir Jaja, hein, qui a passé 11 ans, je crois, en prison. Mais ça, indépendamment de Taïef, c'est un problème au Liban, c'est que les chefs de guerre, aucun n'a payé, sauf un. Aucun n'a payé, on n'a pas réglé. Il y a eu en Afrique du Sud le...
Vérité et réconciliation.
Vérité et réconciliation, voilà, ça n'a pas existé au Liban. Et bien sûr que ça aurait été nécessaire.
Ziad Majed.
Alors, il faut dire que le système politique libanais n'a pas du tout été conçu à Taïef. C'est un système politique qui a été conçu en 1926, la constitution en 1926, qui a été définie par le pacte national en 1943. Et Taïef a juste modifié le rapport de force entre la présidence de la République et le gouvernement. Parce que selon la constitution de 1926, puis le pacte national en 1943, puis le fonctionnement des institutions entre 1943 et 1960, le système devenait de plus en plus présidentiel. Et au Liban, le président de la République doit être maronite chrétien, le premier ministre musulman sunnite et le chef du parlement musulman chiite. On appelle ce système un système consociatif, d'où l'idée d'une majorité à deux tiers plutôt que d'une majorité de 50% plus un, afin de permettre à toutes les communautés d'être représentées. Taïef, ce qu'il a fait, c'est qu'il a modifié un peu les prérogatives des présidents, puisque les musulmans considéraient que l'hégémonie maronite était une des raisons de la guerre civile. Donc il a un peu modifié le rapport de force et il a introduit quelques réformes qui n'ont jamais été respectées. Plus il a permis la mainmise du régime mafieux syrien au Liban avec ses alliés et qui a en sorte marginalisé une partie de la classe politique et consolidé une autre. Mais la question, pardon, juste, je finis avec ça, la question des familles qui se reproduisent, on la connaît politiquement, je veux dire, on la connaît dans l'histoire du pays.
Mais il y a une culture dynastique
exactement
forte.
La différence, c'est que avant la guerre civile, il n'y avait pas des élites politiques qui pouvaient monopoliser ou qui pouvaient imposer une hégémonie au niveau de leur communauté religieuse. Les maronites étaient divisés en des notables, des partis politiques, les chiites la même chose, les sunnites également. Ce n'est qu'avec la guerre, avec le phénomène de Bachir Jmaïel d'un côté, du côté chrétien, la montée de la gauche en puissance France qui ne voulaient pas du tout du système. Puis la montée des acteurs pro-syriens, Amal et pro-iraniens, Hezbollah, qui contrôlent la communauté chiite. Puis l'arrivée de Hariri, qui a unifié les sunnites, que les élites ont commencé, avec Jumblat chez les druzes, à monopoliser la représentation. Et à chaque fois qu'il y a un conflit, ce sont des blocs communautaires qui se confrontent. D'où aujourd'hui, les gens, encore une fois, parlent du dépassement de ce confessionnalisme-là.
Parmi les choses d'ailleurs qui étaient prévues par TF qui n'ont pas été mises en place, la question du désarmement des milices. Mais alors,
c'était même prévu dans la constitution de 1926, la suppression du confessionnalisme.
Quand les Libanais seront prêts, sauf que la classe politique continue à dire qu'on n'est toujours pas prêts.
Alors justement, parce que ça, j'ai regardé, hein, je ne connaissais pas les accords de TF, j'ai regardé un peu en détail. Et qu'est-ce que je lis au moment où justement on met en place les nouveaux équilibres confessionnels? La phrase qui est dite juste avant en préambule, c'est, je cite, « jusqu'à ce que la Chambre des députés mette en place une loi électorale excluant le confessionnalisme, et puis ensuite, donc, les sièges parlementaires seront distribués, etc., etc. » Mais est-ce qu'on a au moins essayé? Est-ce qu'il y a un moment où il y a eu des tentatives pour déconfessionnaliser les gens? Puisque Taïf, quand même, prévoyait, quand même, cette issue, cette sortie-là.
Non, il n'y a jamais eu
La commission prévue par Taïf n'a jamais vu le jour.
Non. Et même Taïf stipulait la nécessité de créer un Sénat. Oui. Donc on peut abolir le confessionnalisme au niveau du Parlement, les législations et suivre le gouvernement, et avoir un Sénat où les communautés peuvent être représentées pour donner les garanties à tout le monde, et le Sénat sera...
Mais pourquoi il n'y a jamais eu de tentative? Est-ce que on revient à ce que disait tout à l'heure Christophe, à savoir au fond, ce n'est pas ce n'est pas dans l'intérêt des Libanais.
D'un certain nombre de Libanais. Parce que je pense que tout le monde, à un moment ou un autre, trouve un intérêt dans ce système, même s'il est extrêmement inconfortable. Aujourd'hui, je pense qu'il est plus inconfortable que bénéfique. Seulement, le problème, c'est toujours la même chose. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et la classe politique, elle sait absolument ce qu'elle perd. Peut-être que les Libanais, de la rue, pourraient y gagner plus,
parce qu'il faut bien comprendre que sortir totalement du régime confessionnel, ce serait un autre Liban. Ça changerait, mais dans la vie quotidienne.
C'est ce que demandent les manifestants. C'est ce que demande le million de personnes qui est dans la rue.
Oui, mais je sais pas si. Enfin, ils manifestent surtout contre la classe politique. Ils manifestent surtout parce qu'ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau, et que les ordures sont dans la rue.
Mais ça, c'est ce qu'ils disaient il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. C'est déconfessionnaliser le paysage politique. Ils le disent. En tout cas, une grande partie.
Je pense que si le pays marchait, le système leur conviendrait.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Ça va marcher un peu mieux.
C'est sûr qu'ils manifestent contre la classe politique, contre les crises cycliques, mais pour la première fois, il y a aussi beaucoup de slogans qui évoquent toute cette question communautaire et la nécessité de la dépasser. Est-ce que cela est possible aujourd'hui ? Peut-être c'est très difficile, ça va prendre du temps, mais il peut y avoir quand même des réformes qui diminuent un peu l'impact de ce confessionnalisme-là.
C'est-à-dire la
question du Sénat et une nouvelle loi électorale qui permet d'autres configurations territoriales au niveau de la représentation.
Mais il y en a une récemment, une nouvelle loi
électorale. Oui, elle est terrible. Elle a été faite sur mesure pour permettre à certains de réussir. Donc il faut des réformes de la loi électorale. Et il faut donner beaucoup plus de droit aux conseils municipaux au Liban. Ils sont les seuls qui sont élus sans quota confessionnel. Sauf que la classe politique les marginalise et gère elle-même le clientélisme.
Décentraliser les choses.
Et décentraliser. Il faut modifier, il faut donner aux femmes libanaises le droit d'accorder la nationalité à leurs enfants. Parce que là, à leur mari, on rentre dans d'autres paramètres. Il y a pas mal de choses à faire.
C'est là que Ziad Majed a tout à fait raison. C'est que la levée du confessionnalisme, on peut déjà la tenter dans un certain nombre de choses comme le statut personnel.
Absolument.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dépendez, si vous voulez divorcer, vous dépendez du régime de votre confession.
Et l'hypocrisie, c'est que les Libanais se marient à Chypre, voilà. Et puis ils reviennent inscrire leur mariage au Liban,
bien qu'ils ne peuvent pas le faire dans le pays. Chez les musulmans, elle n'existe pas chez les chrétiens. Chez certains chrétiens, on peut divorcer, chez d'autres, pas.
Voilà. Tout à fait.
I'm not sure.
Voilà, bon, bah, visiblement, il n'y a que moi qui découvre, hein, Ziad Majed et Christophe Ayaz. Ayaz connaissait, alors dites-moi.
Yasmine Hamdan.
Absolument, chanteuse libanaise, évidemment. Merci infiniment.
D'un groupe qui s'appelait Soap Kills.
Exactement.
À ses débuts.
Bon, alors on mettra évidemment les références de tout ça sur la page de Culture Monde. Merci à tous, Xavier Baron, Ziad Majed, Christophe Ayaz. On mettra toutes les références de vos ouvrages, les uns et les autres, sur la page de Culture Monde. Merci infiniment.